Donc le projet Larry Clavy, titre mystère que je vais démystifier dans quelques minutes. Alors donc moi je suis Athénaïs Theodosopoulos, je suis responsable de ce projet de résidence qui a eu lieu en novembre-décembre à Larry Camari, dont on vous a apporté trois exemples depuis lundi qui a habillé cette salle. Donc trois panneaux sur les six qui ont été créés par des enfants. Et je suis accompagnée de Chloé Dinard.
Du coup, moi je suis stagiaire en recherche-action sur ce projet-là. Je suis en Master 2 Impact à l'Université Jean Monnet. Impact, c'est ingénierie de projet, action communautaire et territoire. Donc c'est tout des... c'est un master du coup qui mène vers des métiers de chargé de mission dans le social, dans l'éducatif et dans l'urbanisme. Donc du coup, sur ce projet-là, c'est plus au niveau éducatif. Et je suis chargée d'accompagner ce projet-là, l'évaluer. Et aussi, j'ai des fonctions de médiation pour pérenniser le projet, en fait. Donc on vous expliquera en fait les enjeux après.
Alors, donc l'association Filigrane, c'est un projet... qui se situe en région Rhône-Alpes. On est basé à Lyon. C'est une association qui porte un projet culturel et artistique sur la langue française et pour l'expression de tous. Donc on s'adresse à des publics en difficulté avec la maîtrise de la langue, difficulté dont peuvent découler des freins à l'épanouissement dans l'espace social. Ça nous amène à travailler avec des publics très divers, dont le public scolaire, mais pas seulement. On travaille aussi avec... des centres pénitentiaires, des hôpitaux gériatriques, maisons de retraite, des publics en centre social, ateliers de français langue étrangère, jeunes en insertion professionnelle, PJJ, etc., etc. Donc on est accompagné d'un collectif d'artistes professionnels pluridisciplinaires, ils sont 25, et ils s'engagent avec nous sur toute la région pour mener des projets de pratique artistique de différents formats, donc ça va d'un format assez court, d'atelier assez classique, atelier participatif, à des formats de résidence comme c'est le cas ici. Donc le contexte, c'est la ville de Larry Camari. Donc Larry Camari, c'est une ville en banlieue de Saint-Étienne, une ville au passé minier, passé ouvrier, qui a hérité de plusieurs vagues d'immigration, y compris récentes. Donc l'école dans laquelle on est intervenu accueille des enfants qui sont en difficulté avec la langue, parfois allophones, certains sont primo-arrivants, ils ont des parents qui eux-mêmes sont en difficulté avec la langue française. Donc pour certains de ces enfants maternels, l'entrée à l'école c'est le premier rapport à la langue française. Les maîtresses ont également des difficultés à faire du lien avec les familles, notamment à cause de cette barrière de la langue. Elles ont du mal à inviter et à impliquer les parents et aussi à cause d'un sentiment d'illégitimité des parents à s'impliquer dans les projets d'école. Donc partant de ce constat, on était en droit d'imaginer qu'on était dans un cadre propice à peut-être de futurs décrocheurs scolaires ou en tout cas d'enfants en difficulté. Difficile d'aborder ça si tôt, mais en tout cas c'était surtout l'idée d'agir sur la peur de l'école, l'appropriation de ces outils et l'attachement à l'institution. On a imaginé une réponse artistique à ces problématiques en proposant l'intervention d'un artiste plasticien pendant un mois dans l'école sur une résidence à raison de 50 heures au total, donc deux fois par semaine. Donc le projet en quelques chiffres, c'est 6 groupes de 10 à 12 enfants, donc 70 enfants de moyenne section et grande section. 6 enseignantes, parce que dès le début du projet, on a voulu impliquer aussi les maîtresses dont les élèves ne participeraient pas au projet. Donc toutes les maîtresses de l'école ont été impliquées dans le projet, depuis son écriture, dès le départ jusqu'à la restitution. Il y avait aussi 4 ATSEM, une AVS et un EAP. Un artiste, donc qui est Antoine Louis Grand, donc c'est un artiste plasticien qui vient de Saint-Étienne, qui est un artiste... contemporain, qui est dans une démarche de création partagée, très claire, qui est aussi assez engagé. Je vous invite à aller le chercher sur Internet pour mieux comprendre sa démarche aussi et qui il est, parce qu'il est, c'est aussi important dans le fond du projet. Et puis une chargée de coordination, donc moi-même, qui était au pilotage du projet et puis aussi chargée de chercher des financements pour le projet. Et donc Chloé, qui est stagiaire à mes côtés depuis le début. Donc, alors le projet, il est construit en deux phases. Là, actuellement, on est dans la phase 2. Donc, je vais commencer par la première phase. Ça a commencé par beaucoup de rencontres et de réunions avec les enseignantes et l'artiste pour écrire le projet, l'imaginer, sa direction, son sens, le parti pris, le regard, etc. Et en fait, la toute première intervention, ça a été, je vais passer très vite dessus, même si c'est important, mais je suis limitée dans le temps. Ça a été une journée de formation, donc rencontre avec un autre artiste que celui qui est intervenu, un sculpteur qui s'appelle Yves Henry, qui est aussi formateur, et qui est intervenu une journée avec les enseignantes pour leur donner des clés de compréhension sur le montage de projets artistiques, et puis leur faire vivre aussi une expérience de création ensemble. Travailler sur les difficultés à trouver des solutions, à réfléchir à la restitution du projet, etc., etc. Donc une journée de formation préambule à l'intervention de l'artiste. Donc ensuite, on est rentré dans la phase de création. Alors j'ai quelques images pour illustrer ce que je vais vous dire, je vais parler par-dessus. Et puis il y a aussi quelques citations des autres acteurs du projet qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, dont l'artiste et puis les maîtresses. Donc Antoine a décidé de travailler sur le territoire de la Ricamari, valoriser la ville partagée par les enfants et leurs parents. Donc il est parti seul prendre des photos d'abord de la ville, de lieux symboliques de la ville, qu'il a ensuite dessiné sur des grands formats, donc de 2 mètres par 3, qu'il a ensuite confié aux enfants pour les colorer. Donc comme il le dit, c'était une façon pour lui de s'approprier le territoire aussi et de rentrer dans le projet. Donc voilà, ça c'est les différents lieux qu'il a dessinés. Alors pourquoi la Ricamari ? La Ricamari, en fait, c'est un peu le slogan de la ville de la Ricamari depuis très très longtemps, depuis les années, je sais pas, 80-90. C'est aussi un petit tag qu'on retrouve un peu partout dans la ville, y compris à Saint-Étienne, sur les abribus, dans un petit coin de mur. Enfin, la Ricamari, c'est le slogan partagé de la ville, c'est du patrimoine pour les habitants, pour les parents et aussi aujourd'hui pour les enfants qui sont ravis de dire qu'ils habitent à la Ricamari depuis le projet. Parole de Cécile, on ne savait pas où on allait. Alors, dès le début du projet, il y a eu une grande confiance dans l'artiste, mais pas tout de suite de lâcher prise. C'est vrai que les maîtresses nous ont avoué qu'elles ont réellement compris la direction du projet le jour de la première intervention de l'artiste. Malgré les nombreuses réunions qu'on avait faites pour préparer tout ça, les nombreuses discussions, les images que pouvait leur montrer Antoine de son intention, le fait aussi qu'Antoine soit venu se présenter aux enfants avec ses œuvres à lui, expliquer ce qui allait se passer, il a fait une petite affichette pour signaler sa venue aussi aux parents, qu'il a mise dans l'école mais aussi partout dans la ville, à la boulangerie, au tabac, etc. Malgré tout ça, les maîtresses nous ont dit, là j'ai compris dans quoi on s'embarquait le jour où il est arrivé. Ce qui nous a beaucoup questionné d'ailleurs sur tout ce temps de préparation, qui a beaucoup questionné l'artiste, ce temps de préparation pour que finalement on nous dise 5 mois plus tard, là j'ai vraiment compris où on allait, c'est assez marrant. Alors, hop, je continue sur les citations, les images parlent un peu d'elles-mêmes. Donc les maîtresses ont été très impliquées dans le projet dès le début. À chaque fois que dans les images vous allez voir une adulte à genoux ou accroupie en train de dessiner avec les enfants, c'est les maîtresses. Elles étaient vraiment dans leur rôle de maîtresse aussi pour apporter ces petits outils dont on parlait hier sur la petite enfance, comment calmer les enfants, les petits rituels, comment les canaliser, comment verbaliser aussi avec eux. Donc elles se sont aussi beaucoup regardées travailler entre elles. Ça, c'était intéressant d'un point de vue de l'échange de la pratique. Une fois, on y était et Antoine leur a dit, c'est marrant, les dessins de vos élèves ressemblent aux maîtresses. On retrouve la patte de la maîtresse dans les dessins, dans les façons de travailler des enfants. C'est vrai qu'il y avait la maîtresse qui autorisait qu'on peigne avec les pieds, avec les mains, qui elle-même se mettait pieds nus pour rentrer dans le dessin avec les enfants. Et puis celle, ça c'est la directrice de l'école, celle qui était plus dans le cadre, dans le respect du dessin, dans le fait de s'appliquer, etc. Donc ça, c'était super intéressant pour nous de voir qu'elles échangeaient aussi sur leurs pratiques et qu'elles évoluaient. C'est-à-dire que celles qui disaient, j'aurais jamais osé les faire peindre avec les pieds, mais maintenant je vais essayer, c'est vrai que ça engage le corps, c'est intéressant, etc. Donc, je passe la citation. Beaucoup de techniques ont été abordées avec Antoine. Donc les enfants ont travaillé en aquarelle, en acrylique, en pastel. Il y a eu du découpage, du collage, une gradation dans la difficulté des moyens employés. Et puis aussi une gradation dans la responsabilisation des enfants. Antoine, au début, leur donnait le pot de peinture et puis au fur et il venait leur demander le jaune, le rouge, etc. Au fur et à mesure, il leur a dit « Bon, maintenant, tu sais faire, tu vas remplir ton pot tout seul, tu fais attention, tu renverses pas, etc. » Et les enfants, ça a fonctionné, les enfants se responsabilisaient beaucoup plus. C'était intéressant aussi de travailler sur des grands formats. Des grands formats de 2 mètres par 3, ça permettait aux maîtresses aussi de voir les enfants travailler différemment. À 10 sur un dessin, il se passe des choses un peu différentes. Elles ont observé un grand respect, une grande politesse dans ces ateliers. C'était vraiment très, très beau à regarder. Les enfants se respectaient beaucoup, s'écoutaient. Est-ce que tu peux me passer le rouge, s'il te plaît? Pardon, je t'ai poussé, etc. Enfin, c'était vraiment très, très sérieux. On sentait que les enfants étaient apaisés, ressentaient vraiment la confiance qu'on leur accordait, la bienveillance aussi qui était sur eux. Et puis, ils avaient envie de bien faire. Ils prenaient vraiment le projet très au sérieux. Ça se sentait vraiment dès le début. Je laisse passer quelques images.
Et puis sur cette notion de partage, l'artiste, il faisait quand même un lien entre la Ricamari, c'est un territoire qu'on partage, donc dans la rue, on se croise, on se respecte entre nous. Et sur le dessin, c'est la même chose, donc on respecte l'espace des autres, on est ensemble, mais on respecte l'espace des autres. Et il faisait vachement le lien entre justement le dessin et le territoire de la Ricamari, ce qui était intéressant dans le projet.
Alors, les familles ont aussi été impliquées très rapidement dans le projet. Dès le début, elles ont été invitées à assister aux ateliers, voilà, là, on voit quelques mamans qui étaient là. On a touché à peu près une vingtaine de mamans qui sont venues pour certaines à tous les ateliers. Au début, elles observaient leurs enfants. Très vite, elles se sont mises en jeu aussi. Et Antoine a voulu leur offrir un tableau rien que pour elles, un tableau des mamans. Donc, comme il dit, il est décidé de les occuper, donc leur permettre d'être aussi complètement actrices du projet. Donc, il a dessiné un tableau, là on le voit, le dessiné avec les enfants. Et puis ensuite, il a pris les mamans en photo, il a fait leur portrait. Et chacune leur tour, elle venait colorer leur portrait. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi défiler. Les mamans, elles nous disaient qu'elles entendaient tellement parler d'Antoine à la maison aussi qu'elles étaient hyper curieuses de venir voir ce qui se passait. Parce que depuis le début, il y a des tonnes de dessins pour Antoine collés sur le frigo. Antoine, Antoine, Antoine. Donc c'était important aussi pour elle de voir ce qui s'y passait. Donc il y a eu une première restitution du projet qui a eu lieu avant les vacances de Noël. Donc qui a été l'occasion de montrer ce qui avait été fait aux familles. De montrer aussi ce qui a été fait aux élus, aux partenaires du projet. C'était important au niveau local de montrer aussi tout ça. Puisque c'était en total écho avec le territoire. C'était aussi la possibilité pour les maîtresses de montrer ce qu'elles avaient fait en dehors des temps de travail avec Antoine, avec les enfants. Donc tout ce travail, donc ce qu'on voit ici, le travail sur le récit, l'oral, le langage, l'écriture pour les plus grands, voilà, la verbalisation de ce qui a été fait, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'atelier, ce que vous voyez. Donc c'était très touchant. Donc, pourquoi première expérience? Parce que dès le début, la promesse du projet, c'était de poursuivre. Parce que la question se pose souvent de quand l'artiste est parti, que reste-t-il de la magie, de ce qui s'est passé, de ce qui a été initié, et puis de ces œuvres qui, aujourd'hui, appartiennent aux maîtresses. Comment les responsabiliser par rapport à ça? Donc, là, c'est plus le travail de Chloé aussi. Donc il y a plusieurs expositions qui sont plus gérées par la directrice de l'école dans la ville. Donc ça concerne la mairie, la médiathèque, le centre social qui acceptent d'accueillir les œuvres. Donc ça c'est en cours, ça va se passer sur le mois d'avril, le collège aussi. Et puis on aimerait bien les exposer dans la galerie du centre commercial, ça c'est une volonté de l'artiste. Le centre commercial qui est représenté dans un des tableaux, c'est assez fort symboliquement, c'est un chemin qui est plus difficile à trouver, mais on va peut-être y arriver. Ensuite, l'idée, c'est aussi de valoriser l'expérience sur le fond, c'est notamment ce qu'on fait aujourd'hui, et puis le 26 mai, à l'université Jean Monnet, où est Chloé, dans la bibliothèque, il y a un espace d'art contemporain qui permet aussi d'exposer les travaux et de faire une petite conférence, enfin un petit rapport pour Chloé de ses premières observations. Et puis en ce moment, Chloé sur place dans l'école travaille avec les maîtresses à garder ce lien avec les familles. Donc il y a plusieurs temps qui sont organisés, donc elle pourra vous décrire ensuite. Mais l'idée, c'est de poursuivre ce rapport qui a été initié avec le projet, parce que les maîtresses nous le disent très clairement, les parents sont beaucoup plus présents dans l'école depuis que le projet a eu lieu. Donc ce pari est gagné, il y a un petit groupe de mamans, et pas seulement celles auxquelles on s'attendait, parce que forcément il y a les bonnes clientes, et puis il y a celles qui sont plus difficiles à faire rentrer. Et donc ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, si tu veux ajouter quelque chose.
Non, par rapport aux parents, voilà, demain on organise un accueil café avec les parents. Donc aussi pour les informer des avancées du projet, parce qu'on a remarqué qu'ils n'étaient pas trop au courant de ce qu'allait être fait par la suite. Et aussi voir ceux qui aimeraient s'impliquer justement dans l'exposition, dans l'élaboration dans la confection de tracts pour signaler les jours d'exposition. Donc voir les parents qui seraient aptes à continuer un peu l'aventure et avec leurs enfants et avec les maîtresses, voilà, juste pour tâter le terrain un peu en premier lieu.
Merci de cette présentation. Peut-être vous, en tant que structure culturelle, qu'est-ce qui vous a semblé peut-être facile, aisé, compliqué? Quels étaient les points de peut-être de malentendu ou les points à travailler, peut-être interinstitutionnels ou entre les personnes, peut-être problématiser un peu ce...
Alors la principale difficulté, le projet est contraint par ses moyens financiers, clairement. C'est plus ma partie, mais du coup on n'a aucun soutien de l'éducation nationale d'ailleurs pour ce projet. On n'a aucun financement public. Tout est payé par une fondation qui s'appelle la fondation AG2R La Mondiale. Déjà ça c'est une grosse difficulté.
C'est-à-dire que vous avez déposé un dossier auprès de cette fondation pour pouvoir monter ce projet?
Oui.
Mais un dossier vous ou un dossier commun entre...
Non, au départ nous, moi toute seule.
Et le choix de l'école était déjà fait ou pas?
Alors il était en cours, le choix il a été fait par l'IUN maîtrise de la langue, référent maîtrise de la langue sur le département de la Loire qu'on avait rencontré dans d'autres contextes. Et l'idée est venue un peu aussi l'idée est venue de nous. Elle a été proposée à l'IEN qui a ensuite été chargée de cibler une école qui pourrait correspondre à ces problématiques-là. Et cette école a été choisie notamment, précisément, c'est très important, pour la cohésion de son équipe enseignante. Et la cohésion de cette équipe, elle était exemplaire. L'engagement des maîtresses, il est vraiment exceptionnel, on le sait, on le voit. Et il est facteur numéro un de la réussite du projet. C'est une évidence. Elles sont très unies. La directrice est très écoutée. Il y a une confiance entre elles. Ça, c'est vraiment... c'est des conditions rêvées pour commencer un projet, déjà. Et puis aussi, la confiance qu'elles nous ont accordée, qu'elles ont accordée à l'artiste... qui est pas évidente, c'est vrai. Enfin, toutes ces questions qu'elles se posaient, qu'elles ont pas osé nous poser, ça, je m'en suis rendu compte aussi après, sur le, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'était très difficile pour nous d'expliquer que, dans la pratique artistique, il y a un facteur d'inconnu, de hasard, de rencontre, c'est les enfants, en fait, qui vont faire le projet, qui vont le diriger. Donc au bout d'un moment, il faut lâcher prise aussi sur ce qui peut se passer. Ça, c'est très difficile pour les maîtresses d'imaginer ça, parce qu'elles nous confient quand même leurs enfants, leur classe, et qu'elles projettent aussi leur propre peur sur les enfants et sur ce qui peut se passer. Mais elles ont quand même suivi. Donc là, on a eu de la chance. Et l'autre difficulté, c'était le partenariat avec la ville, qu'on a tenté de faire, mais c'est vrai, peut-être trop tard dans le projet. Mais du coup, la ville ne s'est pas engagée non plus financièrement sur ces ateliers, mais par contre a été très intéressée par la démarche, donc on est quand même soutenu moralement, mais c'est tout.
Au niveau de certains moyens aussi,
oui, de moyens techniques, pour l'exposition à l'école, ils ont prêté des grilles, des barrières, Ils vont peut-être payer la moitié du buffet de la restitution, mais c'est pas sûr. Enfin, voilà, ça reste très. On avance en marchant, quoi, comme ça, mais. Alors, la totalité du projet. Pour l'instant, ils n'ont pas donné la totalité des fonds, mais c'est en bonne voie. Donc, on va dire que le projet, il coûte 10 000 euros. Donc, ils ont donné deux fois 5 000 euros pour un projet qui, au total, coûte 10 000 euros. Qui, en fait, coûte beaucoup plus, mais c'est. Parce qu'en fait, on chiffre pas non plus tout. On peut pas chiffrer tout ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de temps personnel de l'artiste aussi qu'on peut pas valoriser parce qu'on n'a pas les moyens. Si on les avait, on le ferait, bien sûr. Mais en fait, 50 heures d'intervention, c'est de présence avec les enfants. Mais ça compte pas tout le temps qu'il a passé à préparer le projet, à revenir dessus. Parce qu'on est vraiment sur une création partagée. À chaque fois que les enfants passaient une couche de couleur, l'artiste repassait sur les dessins derrière, repassait les contours, réintervenait, donc il les ramenait chez lui, etc. Donc il y a.
Oui, est-ce qu'on peut avoir sur ce budget, pour avoir un peu une idée, hein, de 10 000 euros qui finalement est le budget que vous obtenez, hein, même si on entend que ce n'est pas le coût total, sur ces 10 000 euros, quelle est la part de rémunération de l'artiste, la part dédiée à l'acquisition de matériel ou voilà, l'investissement ou le fonctionnement, et puis la part qui revient probablement à filigrane pour la coordination?
Oui, alors l'artiste, il est payé 2 500 euros. Plus 400 euros de frais de matériel sur la première phase, sachant que ça a été très très compliqué pour lui parce que c'était pas, enfin même au départ c'était moins, on a réajusté, mais en fait on avait négligé les frais de matériel et puis lui-même avait du mal à se contraindre, à se dire mais non, mais je sais que c'est ce carton qu'il me faut, je sais qu'il est trop cher, mais je veux que ce soit celui-là par exigence de qualité pour les enfants, donc ça c'était. Difficile de lui expliquer que on était aussi, enfin nous on pourrait pas le suivre sur certaines choses, donc il a aussi un peu dépassé son budget. Il y a le stage de Chloé qui dure 5 mois, qui représente 450 euros par mois. Et puis les frais de buffet, matériel, communication, etc. Tout ça représente à peu près 4000 euros. Et puis il doit y avoir 2500 euros de coordination pour filigrane. En fait, la coordination, c'est ce qui reste, en fait. En général, on met tout, le projet, l'artiste, le stage, le matériel, le buffet, la com, et puis ce qui reste, c'est la coordination. Parce qu'on peut pas faire autrement, mais.
Peut-être juste un petit mot. On vient de réaliser une étude au Centre Alain Savary pour la région Rhône-Alpes qui finance sur appel à projet ce qu'ils appellent le plan de raccrochage. Et on se rend compte effectivement de cette difficulté, c'est-à-dire que la plupart des partenaires qui s'engagent dans ce genre de projet mangent le chapeau. C'est-à-dire que ça coûte toujours beaucoup plus cher que ce qu'on pense au départ. Et les points qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on a imaginé, en général, c'est la coordination. Et puis, c'est les temps de préparation, parce que ces temps-là, ils sont invisibles, finalement. Enfin, quelque part, ils sont invisibles. Ils sont souvent tellement énormes que même si on essayait de les anticiper et de les faire paraître dans les dossiers de quand on monte les projets, les sommes demandées seraient tellement importantes qu'on sait que les dossiers passeraient pas, quoi. Donc c'est une vraie difficulté, effectivement.
Je ne sais pas s'il y a prise de parole là, mais moi, ce qui m'interroge encore, hein, sur ce que vous avez présenté, ce que Christine Bolz a présenté, ou nous, ce qu'on a connu au niveau opéra, c'est le moment où commence la construction du projet. Hein, on parle bien du temps de préparation, on a l'artiste qui vient avec son projet. Après, il peut y avoir revendication par rapport. Alors, c'est vrai qu'en maternelle, peut-être que c'est un petit peu plus facile que quand on est au primaire ou au collège, où il y a cette liaison avec les programmes scolaires qui peuvent être interpellés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences et où la construction du projet, à quel moment elle se décide, quoi, ou à quel moment elle s'engage, ou à quel moment. Et avec qui? Bon, j'ai assisté à un colloque au début de l'année scolaire, par exemple, où j'étais dans un atelier qui parlait des projets de la ville de Paris, des projets artistiques, et où une chercheure avait fait une étude où les projets de la ville de Paris étaient étaient définis et puis les comment dire, les enseignants ou les écoles choisissaient dans un catalogue, hein, je parle sous votre couvert, choisissaient dans un catalogue un projet ou patrimoine ou musée ou pratique artistique. Et où donc la chercheure avait étudié, finalement le projet était déterminé, il était fixe, et la part des enseignants dans ce projet qui a priori est déterminé, mais qui pouvait fonctionner ou ne pas fonctionner en fonction de comment l'enseignant. Je ne dis pas que c'est bien de faire comme ça, hein, j'en sais rien, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais où on voyait bien que la manière dont les enseignants s'emparaient du projet, et ben ça faisait pas le même projet, hein, bien qu'il soit très ficelé dès le départ. Et la question finalement, c'est que nous, il y a plusieurs conseillers pédagogiques dans la salle, comment, quand il y a ce type de projet qui se construit en partenariat, finalement, est-ce qu'il y a accompagnement, pas accompagnement, est-ce qu'il y a entre guillemets des garde-fous ou pas, ou quel est le type d'intervention à la fois formative et à la fois institutionnelle sur ce type de projet que vous pouvez avoir vécu?
Oui, je prends la parole parce que ce que vous dites, la semaine dernière, j'ai rencontré un institut culturel qui est dans mon territoire de la Goutte d'Or, qui est l'Institut des Cultures d'Islam, et qui a proposé un projet à la ville de Paris suite à un appel à projet, justement, et un projet autour d'une résidence d'artistes avec un partenariat avec eux. Et en fait, ils ont déposé ce projet à la ville de Paris en indiquant des collèges avec lesquels ils aimeraient travailler. Mais effectivement, ils n'ont pas contacté les collèges parce qu'ils ne peuvent pas dans la procédure, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, en discutant avec eux, parce que dans le réseau d'éducation prioritaire pour lequel je travaille, on est en proximité, on travaille beaucoup avec eux, on s'est questionné sur comment, enfin, si la ville de Paris choisit le collège de mon réseau, ou s'il choisit un autre collège, comment cela va être pris par les professeurs, comment les professeurs vont se saisir de ce projet. Et donc on ne sait pas trop, moi en tant que coordonnateur éducation prioritaire, je ne sais pas trop dans quelle mesure je peux déjà commencer à impliquer le chef d'établissement, parce que dans un projet de résidence d'artiste, il faut le rappeler je pense, et c'est très important, le rôle du chef d'établissement pour impliquer toute une équipe dans un projet de résidence d'artiste est important. Donc on a questionné ce rapport là. Et du coup, j'ai pas de réponse pour l'instant. C'est comme ça. Il y a une procédure qui est la suivante. Il faut attendre que la ville de Paris décide que ça sera tel collège ou tel autre collège. Ben, ça dépend par rapport aux autres les années précédentes. S'il y a déjà eu des projets ville de Paris dans tel collège, s'il y a des collèges où il n'y a pas de projets qui sont développés. Voilà. Et puis souvent aussi ce rapport au territoire qui est assez important, qui se questionne dans les projets artistiques à Paris.
Oui, moi je voulais juste vous questionner sur le lien que vous avez eu avec la conseillère pédagogique, s'il y en a eu, et est-ce que justement il y a eu un espace de formation aussi pour l'équipe enseignante engagée dans le projet?
Alors on avait comme ressource la conseillère pédagogique art visuel du département de la Loire, qui est intervenue sur justement la journée de formation artistique des enseignantes. Elle était présente et elle a suivi avec bienveillance le projet de loin. Elle est venue deux fois sur les ateliers, mais elle était très prise par le temps. C'était vraiment pas de la mauvaise volonté, c'est qu'on a senti tout de suite qu'on était aussi portés. Je pense que c'était surtout important pour les maîtresses de se sentir portées par leur inspectrice de circonscription et par leur conseillère pédagogique. Elle était là sans être là, mais je pense qu'elle a fait du lien au tout début. Après une première ou deuxième réunion avec Antoine, les maîtresses se posaient beaucoup de questions, elles étaient vraiment perdues, ça elles me l'ont pas dit. mais elles se sont tournées vers la conseillère pédagogique et vers l'IEN pour dire est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on va vraiment y arriver, qu'est-ce qui vous êtes sûr qu'on est, que c'est bien nous. Et là, voilà, elles ont joué ce rôle aussi de rassurer sur le partenariat et de mettre en place la confiance.
Donc moi, c'était plus pour répondre à votre question, parce que nous, on a un dispositif à Orléans qui ressemble un petit peu à ce que vous décriviez, qui s'appelle « Un artiste dans ma classe ». Donc, c'est un dispositif qui est porté par la ville d'Orléans. Et il y a un comité de pilotage, en fait, qui gère tout le dispositif, dans lequel il y a à la fois des gens de la ville, tous les conseils pédagogiques en art, des représentants de la Ligue de l'enseignement qui coordonnent aussi le dispositif. Et effectivement, les enseignants reçoivent en début d'année un catalogue dans lequel on leur propose des options, mais les projets ne sont pas définis. On a dans ce catalogue les possibilités de travailler avec un artiste de théâtre, avec un musicien, avec un danseur. Et ensuite, les écoles qui souhaitent travailler avec un artiste. Donc le principe étant un artiste, une classe, environ 20 heures le projet, avec une valorisation ou pas selon les projets en fin d'année. Il n'y a pas d'obligation de valoriser le projet. Et nous, on est vraiment garant dans le comité de pilotage de tout le déroulement du projet. Les enseignants ensuite écrivent leur propre projet. Donc les conseils pédagogiques, ils sont là pour les accompagner en amont, pendant tout le projet. Voilà. Aussi bien pour les aider à rédiger le projet, que pour les aider à l'accompagner par l'apport de documents pédagogiques, le suivi vraiment régulier, proche, pendant le projet avec les artistes. Voilà. Donc on va en classe, travailler avec eux pendant que les séances se déroulent, etc. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Et on est vraiment très très vigilant par rapport à tout ce qui peut, toutes les dérives possibles. Notamment, on est là pour vérifier que les élus ont bien de bonnes intentions. Notamment sur tout ce qui est communication, valorisation. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que ce qui est important, c'est la démarche, c'est ce qui va se passer pendant le projet et pas forcément ce qui va être montré aux familles à la fin. Voilà. Donc, on suit ça de très près. Je pense que mes collègues ici présents savent de quoi je parle.
Oui, la question du processus et du produit final qui a été posé.
Tout ce qu'a dit ma collègue, j'y adhère complètement. Et moi, je suis un art visuel. Je travaille exactement de la même manière sur plusieurs communes, notamment Aix-en-Provence, qui a un gros budget de résidence d'artistes. Alors, c'est vrai que par rapport aux communes, y a toujours une perspective électoraliste, quoi. Il faut bien le dire, et c'est normal. C'est leur boulot. Nous, le nôtre, c'est de nous assurer que les enfants vont faire des apprentissages que l'on doit faire à l'école, des apprentissages, voilà, et que le projet mené va aider effectivement à inscrire ces apprentissages tout au long de l'année. Donc chacun a sa part à faire, quand ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Enfin, là sur Aix, par exemple, nous on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Et juste pour donc tout le suivi, enfin tout ce qu'a dit ma collègue, voilà, c'est exactement la même manière de fonctionner. Ce que nous faisons et sur la plupart des communes, c'est que donc le catalogue entre guillemets est un peu plus fin lorsqu'il est passé aux enseignants, c'est-à-dire que déjà les artistes qui proposent un projet donnent déjà quand même les grandes lignes de leur projet. Voilà ce qu'ils proposent de travailler de telle manière, sur tel médium, enfin bon, etc. Les enseignants qui vont travailler avec lui, qui sont retenus, enfin qui postulent, ont ensuite une journée de formation à laquelle je participe complètement, que j'organise et à laquelle je participe, pendant laquelle ils se rencontrent en binôme, l'artiste et le ou les enseignants qui vont travailler avec lui, et où là, ils écrivent ensemble le projet opérationnalisé, j'allais dire. Parce que le problème qu'on rencontre, c'est que l'artiste va proposer un projet d'artiste, et c'est bien ce qu'on lui demande. Mais que parfois, c'est pas toujours viable. Il faut l'enseignant connaît sa classe, les difficultés, les potentialités, etc. Et ce fait d'écrire ensemble le projet qui va être vraiment le projet qui va se faire est quelque chose qui est très 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 fondateur et qui va créer les liens entre l'enseignant et l'artiste et faire qu'ils travaillent ensemble, chacun de là où il doit travailler. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a fait progresser énormément.
Alors, une dernière intervention et puis après on laisse le temps à Monsieur Merchant de présenter ses projets ou son projet. Et puis, on aura encore le temps de discuter un peu.
Oui, donc nous sommes premier degré, formateur premier degré, donc conseiller pédagogique, art visuel pour mes deux collègues, musique en ce qui me concerne, éducation musicale, et donc généraliste pour moi, notre collègue. Et donc en fait, on se posait la question en vous écoutant, bon alors on rejoint tout à fait le mode de fonctionnement des collègues que nous venons d'entendre, c'est-à-dire avec une petite nuance peut-être, sauf pour la ville de Toulon, puisque nous sommes dans l'Académie de Nice, donc département du Var, où les projets apparemment sont davantage, on va dire, viennent de la commune, mais pour nous, pour la plupart des petites communes qui sont dans le département, en fait, les projets sont souvent proposés dans les structures culturelles. Et donc, notre travail, c'est la mise en relation, bien entendu, avec les structures culturelles et les écoles. La question que nous étions en train de nous poser, toutes les quatre, c'était de savoir si, dans les départements que nous venons d'entendre et les différentes propositions, les exigences concernant les diplômes des intervenants extérieurs, donc qui interviennent sur ces projets, sont les mêmes que pour les nôtres, que dans notre académie, où c'est relativement draconien. Donc on se posait ces questions-là, savoir de quelle manière l'éducation nationale dans les différents projets que nous venons d'entendre et dans les différentes régions agréer entre guillemets ou non les intervenants extérieurs artistes et donc voilà, donc c'est une question qu'on est en train de se poser.
Moi, je peux vous répondre pour la région Rhône-Alpes, enfin en tout cas pour la Loire. Nous, au niveau du choix de l'artiste, à aucun moment on nous a posé la question. Je pense que l'éducation nationale, à partir du moment où ils ont accepté de travailler avec nous, partait du principe que les artistes avec lesquels on travaillait, de par la connaissance de notre travail, de notre, je sais pas, de notre nommée, d'image qu'ils ont pu voir sur ce qu'on fait, part du principe que. Après, c'est des questions qu'on nous pose de temps en temps. Nous, c'est plutôt au niveau de la DRAC qu'on nous pose ce genre de questions. Mais c'est pas draconien, c'est une question, mais ça m'a l'air draconien chez vous, mais c'est pas encore un vrai sujet de complication. Mais après nous dans l'asso, le choix du collectif d'artistes, il est c'est une réflexion qu'on a en ce moment sur la formalisation de la façon dont on recrute les artistes, qui est assez arbitraire, qui demande d'être un peu plus structuré, mais c'est plutôt sur des qualités pédagogiques, des rencontres, des rapports à l'humain, etc. Une façon de travailler, une façon personnelle de travailler, mais c'est nous, c'est jamais sur les diplômes qu'on les recrute, et l'éducation nationale m'en a pas demandé plus non plus.
Oui, moi je veux bien répondre en tant que conseillère en musique dans l'Académie de Lyon. C'est vrai que nous faisons des différences entre les musiciens intervenants que nous agréons, hein, bien sûr, et par contre quand il s'agit d'un projet artistique et culturel dans le cadre de l'appel à projet art et culture, là nous ne demandons pas d'agrément. Par contre, les artistes sont suivis forcément par les conseillers et nous avons une mission d'aller vérifier la pertinence de ce que fait l'artiste et le choix de l'artiste. Donc